Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, nous vous proposons maintenant le verset 214 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Mouradam vous en donne la lecture chantée. Vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset rappelle les épreuves que l'homme a à subir avant d'être sauvé grâce à l'appel du messager.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَ والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر اللَّهِ قَرِيبٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Pensez-vous vraiment entrer au paradis sans qu'il vous soit arrivé comme à ceux qui furent avant vous? Rigueur et détresse les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui, ceux qui avaient cru se fussent écriés. À quand le secours de Dieu? Quoi? Le secours de Dieu n'est-il pas proche vraiment?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir chers amis auditeurs, en ce lundi 25 janvier, j'ai le grand plaisir de vous présenter le journal, suivi d'un commentaire politique. De quoi il oscille la nuée de drones irakiens qui a percé le ciel de Riyad. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. Monsieur, bonjour. À la une de ce journal, Téhéran réserve toujours un accueil favorable au dialogue avec les pays du Golfe Persique. L'Iran ne laissera pas Daesh se réorganiser, déclaration ce matin du porte-parole de la diplomatie iranienne. Et puis, nouvelle manifestation contre le classement d'Ansar Allah comme terroriste par Trump au Yémen. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré qu'au Téhéran réserve toujours un accueil favorable au dialogue avec les pays du Golfe Persique. Mohammad Javad Zarif a ajouté que les pays de la région doivent coopérer les uns avec les autres et adopter des mesures de confiance en faveur d'un dialogue constructif. Il a fait ses remarques à son arrivée dans la capitale azérie, Bakou, première étape de sa tournée régionale dans les pays du Caucase. Les déclarations du très haut diplomate iranien sont intervenues après que son homologue saoudien, Faisal Ben Farahan, eut prétendu que le royaume avait tendu la main à l'Iran pour la paix, mais c'est Téhéran qui n'aurait pas saisi l'occasion. Se félicitant de la proposition du président azerbaïdjanais intitulée « Initiative de coopération régionale à 6 », le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a dit « prête la République islamique d'Iran à aider et à coopérer dans tous les domaines en faveur de la paix, de la stabilité et du calme dans la région ». Zarif a tenu ses déclarations lors de sa rencontre ce lundi avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Bakou, première destination de sa tournée régionale dans les pays du Caucase. Le très haut diplomate iranien a déclaré qu'au Téhéran se félicitait des relations bilatérales plus étroites entre les deux pays. Il a également félicité le gouvernement et la nation azérie pour leur récente victoire dans la région du Haut-Karabakh. Pour sa part, Ilham Aliyev a salué la position de l'Iran concernant le conflit arméno-azerbaïdjanais. Monsieur Aliyev a également qualifié de propice le terrain pour élargir les liens entre Téhéran et Bakou, en particulier dans le domaine de l'économie. L'Iran ne laissera pas Daesh se réorganiser aux côtés de ses alliés. L'Iran ne laissera pas le groupe terroriste Daesh se réorganiser, a affirmé lundi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Le porte-parole de la diplomatie, Saïd Khatibzadeh, a déclaré lors d'une conférence de presse avec les médias ce lundi matin 25 janvier que la politique régionale de l'Iran n'a pas changé. Nous pensons que le mécanisme proposé par Téhéran est une bonne initiative et qu'il dispose d'un bon cadre pour une coopération régionale. Si l'Arabie saoudite s'éloigne du cercle vicieux de la violence et de la coopération avec les pays extra-régionaux, et cela se reflète dans son discours et son comportement, nous ouvrirons grand les bras et nous prendrons des mesures plus efficaces, a insisté le diplomate. Dénonçant la poursuite des bombardements quotidiens menés par la coalition saoudienne au Yémen et le placement du groupe populaire d'Ansar Allah sur la liste autoproclamée américaine du terrorisme, Saïd Khatibzadeh a déclaré qu'une telle situation sape clairement les efforts de paix. Réagissant aux informations selon lesquelles Riyad est prêt à résoudre les problèmes régionaux, le diplomate iranien a indiqué « Pour concrétiser une telle fin, il faut du courage du côté saoudien et un changement de discours politique. » S'agissant de la levée des sanctions par les États-Unis, il a précisé qu'aucune évolution n'a été vue concernant cette question. « Nous avons déjà exprimé notre position et c'est que nous devons voir la levée des sanctions et l'application effective de l'accord multilatéral par les États-Unis et les autres parties. » Pour Téhéran, aucun dialogue productif ne peut être renoué tant que ces conditions ne seront pas remplies, insistait le diplomate. Deux pétroliers ont résonné dans les eaux du Pontianak, dont l'un iranien. Un pétrolier iranien a été arraisonné par l'Indonésie. L'Agence de la sécurité maritime de la République d'Indonésie, Bakamla, a arraisonné deux pétroliers battant pavillon iranien et panaméen dans les eaux de Pontianak. Les deux pétroliers sont soupçonnés d'avoir effectué des transferts illégaux de pétrole prêtant la source. Selon le chef des relations publiques et du protocole de Bakamla, le colonel Vilsou Brahmandita, les deux navires étaient soupçonnés d'effectuer des transferts illégaux de carburant. Les deux pétroliers seront escortés à Batam pour mener une enquête plus approfondie, a-t-il ajouté. Autre thème, des milliers de Yéménites sont descendus dans les rues de la ville de Saada pour dénoncer la décision des États-Unis de mettre sur liste noire le mouvement Ansar Allah. Les manifestants ont appelé les autorités américaines à revenir sur cette décision. C'était l'une des dernières décisions de l'administration Trump qui a visé le Yémen plongé dans la pire crise humanitaire du monde selon l'ONU, provoquée par 5 ans de guerre et de bombardements de la coalition saoudienne. Cette décision a déclenché des vagues de protestations de la part des Nations Unies et des groupes d'aide internationaux. Pour l'ONU, cela compliquera davantage les efforts pour lutter contre la pire catastrophe humanitaire actuelle. Elle craint que cette désignation décourage les entreprises étrangères d'aider et d'investir dans le pays. La situation humanitaire s'est déjà aggravée au Yémen en raison des bombardements intensifs sur la population et les infrastructures civiles, mais aussi suite aux blocus aériens, terrestres, maritimes et même médiatiques imposés au pays par Riyad. L'intervention de la coalition saoudienne d'agression en mars 2015 contre le Yémen pour amener au pouvoir l'ex-président démissionnaire en fuite, Abd Rabo Mansour Hadi, a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions d'autres et laissé, selon l'ONU, 16 millions de Yéménites face à la pire crise humanitaire dans le monde. Direction l'Europe, la police hollandaise a arrêté environ 250 personnes au milieu de violentes manifestations à l'échelle nationale contre un couvre-feu visant à freiner la propagation du Covid-19. La police a utilisé des chiens et des canons à eau pour disperser les manifestants à Amsterdam. Dans la ville méridionale d'Eindhoven, la police a utilisé du gaz lacrymogène pour disperser une foule de plusieurs centaines de personnes. Des incidents similaires ont été signalés dans d'autres villes, notamment La Haye, Breda et Arnhem. Le couvre-feu, qui est le premier du pays depuis la Seconde Guerre mondiale, devrait durer jusqu'au 10 février. Les Pays-Bas étaient déjà soumis à des mesures les plus sévères décidées par le gouvernement. De nouvelles variantes du virus, en particulier une souche plus infectieuse apparue pour la première fois en Grande-Bretagne, ont suscité de profondes inquiétudes en Europe. Enfin, au Mali, au moins 6 soldats ont été tués, 18 autres blessés dans 2 attaques contre des positions de l'armée près de la frontière du pays avec le Burkina Faso. L'armée malienne a déclaré qu'une 30aine de terroristes avaient également été tués lors de la riposte des FAMA. Sous prétexte d'accompagner l'armée malienne, la France aurait aussi appuyé l'armée malienne avec ses avions de combat. Des dizaines de motos et une grande quantité d'équipements militaires ont été saisis aux assaillants. Le pays frappé par les violences reste le théâtre de plusieurs attaques de ce type depuis 2012. Réagissant aux évolutions, l'ONU a également exprimé sa préoccupation, déclarant que plus de 2 millions de personnes dans la région du Sahel, au sens large, avaient fui leur maison en raison de la violence. Fin de ce journal. Dans quelques instants, notre commentaire politique. De quoi est le signe la nuée de drones irakiens qui a percé le ciel de Riyad? Ces 4000 chefs de guerre daéchistes que les troupes américaines ont déguisés ces dernières semaines, juste avant l'expulsion de Trump de la Maison-Blanche, en soldats US, et fait infiltrer à bord des convois logistiques américains depuis Hasake, Al-Tan fait des résorts à Al-Anbar, avant de les répartir à Salah ed-Din, Kirkouk et Diyala, entre autres, là encore sous ombrelle protectrice US, l'axe US-Israël-Arabie n'aurait jamais dû les sortir du placard. Deux d'entre eux, de nationalité saoudienne, ont fait déclencher leur ceinture explosive le jeudi 19 janvier sur la place d'Al-Tayaran de Bagdad, provoquant la mort de plus de 30 Irakiens. La contre-attaque est trop cinglante pour pouvoir être amortie de si tôt et si facilement. Comment ? Œil pour œil, dent pour dent, la résistance irakienne fait son baptême de feu de puissance balistique. Riyad, la première cible. Le samedi 23 janvier, une nuée de 3 drones missiles de croisière a fait son apparition dans le ciel de Riyad, et pas depuis le front sud saoudien, où un Sarallah a l'habitude de lancer ses missiles balistiques ou encore ses drones missiles de croisière à l'assaut des raffineries d'Aramco à l'est, à l'ouest, des sites et aéroports militaires dans le sud ou des ports pétroliers et commerciaux comme Jeddah et Jizan. C'était un de 3 appareils de conception iranienne, suivant les données radar de la DCA de la capitale saoudienne que font marcher depuis 2019 des officiers américains venaient du nord, soit du territoire irakien. Et ils avaient, c'est juste après le coup que les Américains l'ont réalisé, traversé sans avoir été intercepté par aucune des 6 stations patriotes US, jordaniens, saoudiens et koweïtiens qui se trouvaient sur leur trajet, puisqu'ils survolaient à très basse altitude et qu'ils avaient visiblement de quoi leurrer les radars. Ce ne fut que dans le ciel d'Al-Yamame, palais de Salman et son fils, que les engins ont été interceptés, et encore pas tous les 3, et ce à l'aide de la DCA du prince sultan Airbus. Cela veut très clairement dire que le royaume saoudien pourrait ne pas avoir à disposer trop librement de ces kamikazes que le Pentagone de l'Iodostin vient de replanter en Irak, et ce pour la bonne et simple raison que l'Arabie saoudite fait face désormais, tout comme son ami et allié Israël, à un double front, le front sud yéménite et le front nord irakien. Toute la journée de dimanche, Biden et son clan l'ont passé à résoudre ce nouveau quadrature de cercle et faire comprendre à l'allié saoudien, carrément terrorisé à l'idée d'avoir à payer désormais le prix du sang irakien, suivant l'équation un kamikaze égale un missile, comment il comptait affronter cette duplication de menaces balistiques dans le ciel du royaume. Voilà, fin de ce commentaire politique. Merci infiniment de votre attention. Veuillez suivre l'intégralité de l'article sur notre site french.presstv.com. Bonne lecture.
Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du débat en ce dimanche 24 janvier 2021. La 25e exposition internationale du pétrole, du gaz, du raffinage et de la pétrochimie s'est ouverte vendredi au parc des expositions de Téhéran et se poursuivra jusqu'à 25 janvier. Lors de la cérémonie d'ouverture de cette exposition, le ministre iranien du pétrole a souligné que la politique de l'ex-président américain Donald Trump visant à réduire à zéro les exportations de pétrole iranien avait totalement échoué. Bijan Namdar Zangane a affirmé que non seulement l'administration Trump n'avait pas réussi à atteindre son objectif, à savoir réduire à zéro les exportations de pétrole iranien, mais encore l'Iran avait enregistré de bons chiffres en ce qui concerne l'exportation des produits pétroliers. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'organisation de cette exposition, la revanche pétrolière de l'Iran, une éventuelle levée des sanctions, y compris les sanctions relatives au pétrole et bien entendu la stratégie du nouveau président américain par rapport au retour en force de la République islamique d'Iran sur le marché pétrolier. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Lors de l'ouverture de la 25e exposition iranienne du pétrole, du gaz, du raffinage et de la pétrochimie, le ministre iranien du pétrole a annoncé que l'Iran continue à exporter du pétrole et que les exportations des produits pétroliers ne se sont jamais aussi bien portées, l'Iran laissant ses ennemis à leur fin. La 25e exposition iranienne du pétrole, du gaz, du raffinage et de la pétrochimie s'est ouverte vendredi 22 janvier à Téhéran et se terminera le lundi 25 janvier. L'exposition de 4 jours a été inaugurée par le ministre du pétrole, Bijan Namdar Zangane, avec la présence des industriels du secteur privé, des représentants du Parlement, ainsi que des producteurs et des opérateurs de l'industrie. Se déroulant selon des protocoles sanitaires stricts, la foire se tient en dépit des sanctions américaines imposées depuis 2018 suite au retrait unilatéral de Donald Trump d'un accord international connu sous le nom de Plan Global d'Action Conjoint. En cette année que le leader a baptisé l'année de l'essor de la production nationale, nous ne pouvions pas évidemment couper les relations entre producteurs et entrepreneurs, a indiqué le ministre. Monsieur Zangane a indiqué que les sociétés d'exploration et de production pétrolière sont le pilier le plus important pour renforcer la technologie et localiser l'industrie pétrolière et raviver par la suite tous les autres secteurs. Cité par Bloomberg, le vice-ministre iranien du pétrole, Amir Hossein Zamaninian, a de son côté déclaré que l'Iran avait commencé à augmenter sa production de pétrole et prévoyait d'atteindre les niveaux pré-sanctions dans un mois ou deux. Bloomberg de rappeler, le ministre iranien du pétrole, Bijan Zangane, a déclaré en décembre que le gouvernement cherchait à doubler la production de pétrole et à augmenter les exportations à 2,3 millions de barils par jour.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Pour cette émission, nous avons le plaisir d'accueillir depuis Paris Mme Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, et toujours depuis Paris, M. Jacob Cohen, écrivain et analyste politique. M. Cohen, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je vous en prie.
M. Cohen, alors, en pleine sanction américaine et bien entendu, avec l'arrivée au pouvoir du nouveau président américain Joe Biden, la République islamique d'Iran a organisé une exposition d'une grande importance sur le pétrole, le gaz, le raffinage et la pétrochimie. Alors, en cette période, quel est le message et l'importance de l'organisation d'une telle exposition, M. Cohen?
Cette exposition s'inscrit dans une nouvelle page que l'on aborde sur le plan diplomatique et pétrolier, c'est-à-dire d'abord la perspective de reprendre les négociations et de suspendre le boycott, les sanctions, Deuxièmement, il y a un plan de relance aux États-Unis qui est pratiquement de 2000 milliards pour relancer l'économie. Et donc, ça veut dire qu'il y aura une demande très forte au niveau du pétrole. Il y a le prix du pétrole qui, vous savez, qui a connu une baisse très forte au début des années 20 à cause d'un conflit, enfin, ou d'une mésentente entre l'Arabie Saoudite et la Russie. Et donc, le prix à retrouver a été quasiment multiplié par 3 depuis un an. Il y a la découverte l'année dernière d'un gisement très important en Iran, excessivement important. Et donc, tous ces éléments font que cette exposition s'inscrit dans une reprise qui probablement tombe très bien, c'est-à-dire avec tous ces éléments que je viens d'énoncer. Et surtout, la probable reprise des négociations pour que l'Iran retrouve sa place d'exportateur de pétrole tel qu'il a été. Et n'oublions pas que même le chiffre que l'on espère obtenir ne serait que retrouver le niveau que faisait l'Iran il y a 4-5 ans. Ça veut dire à peu près qu'il tournerait autour de 2,5 millions de barils par jour. Voilà.
Merci pour ces précisions, M. Cohen. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre Mme Aïssa Hamidani, analyste franco-syrienne des questions internationales. Mme Hamidani, bonjour.
Bonjour. Bonjour à vous, à votre invité et à toute l'équipe facile.
Mme Hamidani, contrairement à ce que souhaitaient les ennemis de l'Iran, à ce que voulaient obtenir, et en effet, les ennemis de l'Iran, notamment l'administration Trump, qui n'a lésiné sur rien pour pouvoir, en vain d'ailleurs, réduire à zéro les exportations de pétrole iranien, la République islamique d'Iran, en effet, a continué et continuera, bien entendu, à exporter des produits pétroliers. Alors, une première question. Bien sûr, avec le départ de Donald Trump, est-ce que cela montre l'échec total de cette stratégie de l'administration américaine, de cette stratégie de pression maximale contre la République islamique d'Iran?
Effectivement, ça montre que toute leur cette pression maximale qui vise à étouffer le peuple iranien et à empêcher son évolution technologique, a empêché aussi son même l'utilisation de son pétrole pour le bien du peuple. C'est avéré un véritable fiasco par rapport aux objectifs américains qui étaient d'appauvrir et de mettre à genoux l'Iran. En fait, on voit très bien que c'est au contraire l'Iran n'a pas seulement tenu, mais a développé tous les moyens au niveau économique, au niveau scientifique, au niveau de la production du pétrole aussi, parce que avec le nouveau gisement effectivement découvert, donc ça veut dire que l'Iran a aussi évolué au niveau des techniques de prospection et puis de découverte et de recherche du pétrole, donc en fait, et d'exploitation. Tout ceci montre à quel point cette politique américaine est en échec. Ceci, effectivement, je voudrais saluer les efforts du peuple iranien, les efforts de l'État iranien aussi, parce que à l'ombre de cet embargo qui était terrible contre la population qui a connu des moments très durs aussi, elle a pu développer toutes ses capacités à la fois de production, de vie et d'exportation. Je voudrais dire aussi, au contraire, ça a augmenté l'esprit de combativité et de défi du peuple iranien, mais nous avons vu aussi le défi de l'État iranien à l'embargo vis-à-vis d'autres pays, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis du Venezuela, où les bateaux de pétrole iranien arrivent même jusqu'au Venezuela pour briser le blocus qui est imposé par les Américains sur ce pays, alors qu'ils essayent tous les jours de faire des créer des différends à l'intérieur du pays, créer des problèmes, etc., pour le casser et le mettre à genoux, justement, l'affamer, le faire mourir de froid, comme aujourd'hui c'est le cas en Syrie, par exemple. Ils sont en train de voler le pétrole. Les Américains volent et pillent le pétrole syrien alors qu'il fait très froid, il neige et la population a froid. Ils visent par cela à mettre les peuples à genoux. En fait, ils n'y arriveront pas parce que ça ne fait qu'augmenter la combativité et la détermination et l'esprit du défi des peuples et du peuple syrien et du peuple iranien et du peuple vénézuélien pour mettre en échec toute cette politique américaine de domination, d'hégémonie sur le monde et puis de pillage des ressources des autres pays pour leur profit et pour augmenter leur hégémonie sur le monde. Donc tout ceci, je suis persuadée que de toute façon, tous ensemble, au sein même aussi de l'acte de la résistance et au sein de tous ces pays qui sont encerclés par les États-Unis, sous blocus, etc., arriveront à se donner la main et constituer un front face à ce diktat et à cet hégémonisme complètement, non seulement injuste, mais complètement criminel, qui vise à mettre les peuples à genoux.
Merci pour ces éclairages, Madame Midani, restez avec nous. Monsieur Cohen, quel sera l'impact du retour en force de l'Iran sur le marché pétrolier au sein de l'OPEP, mais aussi, en effet, quelle sera la réaction des principaux exportateurs mondiaux du pétrole, notamment l'Arabie Saoudite?
Disons qu'aujourd'hui, ce retour serait presque bénéfique. Pourquoi? Parce que, comme on sait, l'année 2020 a été une année de récession, et donc à cause du Covid, et donc l'arrêt quasiment de l'industrie, des transports aériens, surtout par exemple, alors que tout cela va reprendre certainement en 2021, donc la demande en pétrole va être très forte. Et d'ailleurs, la Chine a montré beaucoup d'intérêt pour le pétrole iranien déjà. Donc, il y a un gros client qui sonne à la porte de l'Iran. Donc, il ne se passera pas comme au début des années 20 où il y avait une surproduction et donc où il fallait limiter la production pour maintenir le prix. Et ça, c'est très important parce que disons que l'Iran ne serait pas vu comme un invité qui gênerait déjà des places établies. Au contraire, enfin, il aura toute sa place parce que la demande est forte et parce que on reviendrait à une normalité internationale pétrolière que l'on avait déjà connue. Donc je pense que ça se fera de manière tout à fait raisonnable et pacifique.
Et en ce qui concerne justement l'arrivée, l'entrée en fonction du nouveau président américain, là, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur Cohen, oui, d'une possible reprise des négociations. Bien oui. Sûr, la République islamique d'Iran, par la voix de son chef de la diplomatie, Monsieur Zarif, a appelé en effet Joe Biden à la levée immédiate des sanctions sans condition préalable. Alors, de ce point de vue, justement, à quoi il faudrait s'attendre en ce qui concerne la nouvelle stratégie, la stratégie, disons, de la nouvelle administration américaine concernant cette question de levée des sanctions anti-iraniennes?
Bon, il est très difficile de dire quel sera de fixer l'emploi du temps de ce qui va se passer, l'agenda de ce qui va se passer. Il est évident que les signaux qui ont été donnés par cette administration, et n'oublions pas que Biden a été le vice-président d'Obama qui avait initié cet accord, donc il est très probable de tout ce que l'on sait qu'on reviendra avec les précautions d'usage, etc., à un nouvel accord. À peu près dans le même ordre. Ce qui est important, c'est que, disons que si l'atmosphère est détendue, c'est-à-dire même avant des négociations, même avant un accord, si l'Amérique montre une certaine prédisposition à négocier, disons, il lèverait les obstacles que l'administration Trump a imposé pour interdire l'exportation du pétrole. Par exemple, vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis de l'Inde, il y a beaucoup de pays qui voudraient importer du pétrole iranien, mais qui craignaient les sanctions américaines, dont on connaît ce qu'on appelle l'unilatéralisme juridique. Donc, psychologiquement déjà, diplomatiquement, en disant qu'on va renégocier, en établissant un état favorable, disons, entre l'Amérique et les autres puissances qui ont signé l'accord, certains pays comme l'Inde et d'autres reprendront, même avant la signature d'un accord, se sentiront libres de reprendre les importations du pétrole iranien. Donc ça, c'est un bon signe, avec ce que j'ai déjà exprimé, c'est un très bon signe pour l'exportation pétrolière de l'Iran.
Merci encore, M. Cohen. Une toute dernière question à Mme Midani. Mme Midani, la République islamique d'Iran, bien sûr, a souligné que l'accord nucléaire de 2015 n'est pas négociable, a exigé la levée des sanctions sans condition préalable. Monsieur Cohen l'a rappelé, l'administration Biden a déjà envoyé des signes pour réintégrer, en quelque sorte, l'accord nucléaire. Est-ce que toutes ces évolutions pourraient, en effet, nous conduire à cette hypothèse que Biden pourrait et voudrait tirer leçon des erreurs de Donald Trump et, en effet, œuvrer pour compenser en quelque sorte ces erreurs et lever les obstacles, notamment devant l'exportation du pétrole iranien.
En fait, la question se pose effectivement sur la véritable volonté de l'administration Biden. Effectivement, s'ils ont envoyé des signes, ils ont envoyé des signes positifs par rapport à la levée de ces mesures coercitives, en fait, contre l'Iran. Effectivement aussi, il a commencé par annuler un certain nombre de décisions qui ont été menées par Trump, en fait, qui ont été prises par l'administration Trump, notamment le retour à l'accord sur le climat, notamment un éventuel retour aux accords par trois et surtout la réétude de la mise sur la liste des terroristes. Donc aujourd'hui, l'administration Biden donne des aspects positifs et des signes positifs pour son intégration, je dirais, à elle dans le monde et puis un refonctionnement normal. Ça, c'est un premier point. D'un autre côté, n'oublions pas que c'est aussi Biden, il relève de l'administration Obama et que c'est cette administration Obama aussi qui est précédée Trump qui a mis aussi des sanctions contre l'Iran. Elle a bien négocié effectivement cet accord sur le pétrole, cet accord sur le nucléaire. J'espère qu'ils vont pouvoir revenir à leur position d'avant effectivement. Et surtout sans conditions préalables et sans conditions supplémentaires, chose que d'ailleurs l'Iran a bien souligné et fait comprendre. Mais de toute façon, il y a cette volonté. Mais moi, je ne fais pas complètement confiance à cette administration Biden, puisque c'est elle aussi, il n'est pas revenu sur tout ce qui a été fait par rapport à Israël, que Jérusalem devienne la capitale israélienne, que les accords ce qu'on appelait le deal du siècle à propos de Jérusalem et à propos des Palestiniens il ne revient pas dessus. Bon, mais c'est tout un certain nombre de choses, mais on s'attend à ce que l'administration Biden elle agit dans un gant de velours de manière un peu plus soft au niveau de la même politique. Mais c'est vrai que ça reste quand même l'administration américaine, ça reste quand même cette volonté d'hégémonisme au niveau mondial. Mais d'un autre côté, je voudrais quand même souligner que les alliés des Américains au sein de l'OTAN, qui sont l'Union européenne, la France, etc., l'Allemagne et tous les pays européens, ils ont envie de revenir, ils ont envie et ils ont besoin économiquement de revenir à cet accord, parce qu'ils ont surtout aussi beaucoup de compagnies, des compagnies françaises, des compagnies américaines, des compagnies allemandes, etc., qui cherchent à travailler avec l'Iran au niveau à la fois des nouveaux gisements, au niveau du raffinage, au niveau de l'extraction du pétrole et de la production. Donc, en fait, il se pourrait, en fait, que c'est effectivement, ce soit l'Union européenne qui fasse pression sur l'administration Biden dans le bon sens, pour reprendre des relations normales avec l'Iran au niveau du pétrole et on espère au niveau du nucléaire aussi dans le cadre du rapport de l'accord qui a été conclu en 2016. Donc il est certain aussi que l'Iran affirmant ses positions et sa force et son intransigeance sur le fait que de toute manière les accords seront conclus. S'ils reviennent aux accords, ben, ça sera comme avant et sans aucune condition supplémentaire. Je crois que là, c'est une très bonne chose, mais je crois que l'administration Biden va tergiverser au niveau des conditions, etc. Mais bon, c'est quand même une situation beaucoup plus, on peut dire, plus ouverte que l'administration Trump qui était qui allait dans un cadre vraiment très très violent, j'allais dire.
Merci infiniment, Monsieur Cohen. Alors oui. Très rapidement, s'il vous plaît, et comment évaluez-vous le positionnement de l'Europe dans toutes ces évolutions?
L'Europe, comme a dit Madame, c'est elle. Enfin, elle a toujours soutenu l'accord. Et elle a représenté, disons, l'autre partie qui voulait absolument maintenir le dialogue. C'est la partie, disons, qui ne rentrait pas dans cet extrémisme diplomatique. Et donc, je crois que si Trump avait été réélu, l'Europe n'aurait pas pesé beaucoup. Mais enfin, disons que la position continue et ferme, même si l'Europe avait commencé, à reprendre à son compte certains arguments des Israéliens, par exemple sur les missiles. Et donc, peut-être que l'Europe a représenté ce côté, pacificateur, qui va faciliter la chose, même à Biden et même aux autres, de reprendre les négociations. Finalement, la voie de la raison qui arrange tout le monde, prévaudrait.
Jacob Cohen, analyste politique écrivain, Maïsa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales, merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci à vous.
Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Merveille. l'Iran est certes le pays des merveilles, des arts et des beautés. De par sa nature diversifiée et sa culture variée, en passant par ses sites et monuments historiques datant de millénaires, sans oublier ses arts sophistiqués, l'Iran surprend tout un chacun qui lit, entend, parler ou visite ce pays. Cette série d'émissions qui s'intitule « Iran, pays des merveilles » vous fera découvrir, tant soit peu, la terre de Perse, riche d'une histoire et d'une civilisation plurimillénaire.
Très chers amis auditeurs, dans cette émission, nous voulons parler du chef-lieu de la province du Fars, à savoir Shiraz. C'est en effet la capitale culturelle de l'Iran. Nous commençons alors par un peu d'histoire avant de se pencher sur les monuments historiques et précieux de cette ville. Shiraz, chef-lieu du Fars, dans le sud-ouest de l'Iran, se situe sur une altitude de 1486 mètres de la mer, sur les pieds de la chaîne montagneuse de Zagros. Sa distance avec Téhéran, capitale du pays, est de 919 kilomètres. Shiraz compte parmi les plus grandes et les plus belles villes d'Iran. Vu ses monuments historiques précieux et sa beauté merveilleuse, la ville a toujours attiré l'attention des touristes iraniens et étrangers, à tel point qu'il y a des gens qui connaissent l'Iran du nom de Shiraz. La ville de Shiraz est traversée par une rivière à sec, parfois alimentée en eau l'hiver. Cette rivière se jette dans le lac de Maharlu, un lac salé. Shiraz a une superficie de 340 km² et est ainsi, par la superficie, la troisième plus grande ville d'Iran après Téhéran et Mashhad. Shiraz bénéficie d'un climat continental semi-aride avec 16,6 degrés centigrades de moyenne annuelle et des précipitations annuelles qui s'élèvent à seulement 305 mm. L'hiver est assez pluvieux, le mois le plus arrosé étant janvier avec 79,8 mm de hauteur de pluie. Par contre, en été, Shiraz ne reçoit pas la moindre goutte de pluie. Les températures estivales peuvent être torrides, alors qu'en hiver, le gel est possible. La province du Fars accueille trois capitales de l'histoire perse. Les ruines de Persépolis, vieilles d'environ 2500 ans, se trouvent à 60 km au nord-est de Shiraz et témoignent de la grandeur passée de l'empire achéménide. Persépolis, Firouzabad et Pasargad sont des témoignages proches anciens de cette civilisation antique. On sait que des installations humaines existaient à Shiraz à l'époque sassanide. La ville est également ville d'origine de commerçants aventuriers qui ont fondé ou pris possession de nombreux comptoirs et villes sur la côte est africaine. L'apport culturel des Shirazis a influencé la culture swahili de façon non négligeable. Le nom et la mythe de la ville étaient écrits Tirazish, comme l'attestent les tablettes d'argile et la mythe trouvée à Persépolis. Ce nom est devenu Shirazish en vieux persan. À travers les changements intervenus dans le temps, le nom est devenu Shiraz en persan moderne. Le nom Shiraz apparaît aussi sur des seaux d'argile retrouvés à Ghasri Abu Nasr, une ruine sassanide à l'est de la ville. Shiraz, le berceau des deux principales dynasties perses, Achéménide et Sassanide, se trouve à proximité d'importants sites historiques de la Perse antique, comme le site de Persépolis ou de Pasargade. À l'époque des Achéménides, Shiraz se trouvait sur la route de Suse, capitale des Achéménides, menant à Tarté-Djamchid et Pasargade. À l'époque des Sassanides, la route qui reliait les villes très importantes, telles que Bishapur, Gur et Estakhr, se traversait la plaine de Shiraz. Il est donc naturel et évident qu'une telle région féconde et de beau climat, avec sa situation stratégique, attirait toujours l'attention des gouvernements. Selon les documents et objets découverts par les archéologues, l'ancienneté de Shiraz remonte à l'avant-islam. Les objets, vaisselle, monnaie, etc., qui sont gardés dans le musée métropolitain de New York ou ceux dans les autres musées du monde, témoignent de la majesté et de la gloire de Shiraz à l'époque de Seljoukides, Arsacides et Sassanides. En 1933, dans la partie orientale de Tarté-Djamchid, connue sous le nom de Khazané, trésorerie, environ 30 000 tablettes en terre écrite en cunéiforme ont été découvertes. Les écritures donnaient des informations sur les lieux de résidence des ouvriers shirazis. La date des tablettes remontait à 496 avant Jésus-Christ. Avec la découverte de ces tablettes, et leur décodage par les professeurs et experts en langue cunéiforme, on a saisi que la ville de Shiraz existait à l'époque des Achéménides et que des ouvriers de cette ville collaboraient à la construction de Tarté-Djamchid et qu'ils recevaient de salaire. Venant de l'évoquer, l'antécédent de la ville de Shiraz remonte à l'époque des Achéménides. Pourtant, son prestige, sa crédibilité et son renom ne concernent pas seulement à son existence avant l'islam. La ville de Shiraz était aussi importante, célèbre et crédible à l'époque après l'islam, où Shiraz a été choisie à quatre reprises comme capitale du pays. La première fois, au IVe siècle de l'Égypte, à l'époque des Deylamiyan, ensuite à l'époque des Atabakan, VIe et VIIe siècle de l'Égypte, à l'époque des Alé-Injou et des Alé-Mozafar, VIIIe siècle de l'Égypte, ainsi qu'à l'époque de la dynastie Zand, XIIe siècle de l'Égypte. À toutes ces époques, Shiraz était la capitale de l'Iran. De chaque époque, d'objets et monuments historiques précieux nous sont restés. Après l'islam, Shiraz est devenu le centre de connaissances, de savoir et de gnose. Il était célèbre, entre autres, pour le grand nombre d'écoles, de librairies et de mosquées à abriter. Nombreux sont les oulémas, les poètes et les mystiques nés ou élevés dans cette ville. Saadi et Hafez, les deux grands poètes de l'Iran, en sont des exemples. Ils vivaient respectivement à 7e et 8e siècle de l'Égypte à Shiraz, ville de fleurs et de poésie. Outre les poètes tels que Saadi et Hafez, des savants et des mystiques très célèbres étaient originaires de cette ville. Pour en énumérer quelques-uns, Sibouye, Ibn Morafa, Molla Sadra, Qutbeddin Shirazi, Sheikh Ruzbahan, etc. Shiraz, qui se trouve d'ailleurs au carrefour des plus importantes routes de communication du nord au sud, de l'est à l'ouest, détient d'une situation stratégique particulière. Il abrite nombre d'universités et d'établissements d'enseignement scientifique crédibles. Un grand nombre d'hôpitaux spécialistes se trouvent à Shiraz, où des milliers de cas d'opérations de greffe ont eu lieu. Shiraz constitue en effet l'un des plus importants centres médicaux du pays qui soigne non seulement les malades de Shiraz et de toutes les autres villes de la province du Fars, mais aussi ceux des autres provinces et des pays voisins, notamment les pays du bassin du Golfe Persique. la croissance notable de l'industrie de l'électricité, métallurgie et de l'électronique dans la province de Fars tout au long des dernières décennies a fait de sorte qu'un grand nombre d'usines ont été construites dans la ville de Shiraz qui s'est ainsi transformée en pôle électronique de l'Iran. Chers amis auditeurs, la semaine prochaine, nous vous parlerons des monuments historiques et des endroits touristiques de cette belle ville qu'est Shiraz. Thank you.